Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce troisième épisode des Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence réalisée par des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français et psychologue, et je suis accompagnée de Luc Elitanski, professeur d'anglais. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux émotions des élèves à l'école. Quelle est leur place dans ce lieu consacré à l'acquisition de connaissances? Ces émotions sont-elles compatibles avec la rationalité attendue dans l'apprentissage? Est-il facile de les maîtriser lorsqu'elles sont indésirables? C'est ce dont nous allons parler ensemble avec nos invités qui ont bien voulu venir se joindre à nous et qui vont se présenter en nous donnant leur prénom et leur classe.
Arson, troisième.
Aya, troisième. Ava, terminale. Venise, terminale.
Max, terminale.
Anaël, terminale.
Merci, bonjour à tous. Maintenant que les présentations sont faites, entrons dans le vif du sujet.
Donc on aimerait vous demander de lister les émotions que vous connaissez.
Le bonheur, la joie.
Je dirais aussi le stress un peu.
La peur, la tristesse.
Le dégoût, la colère, l'anxiété, la honte, la gêne.
Le malaise.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes puni à la place de quelqu'un d'autre, par exemple?
De l'incompréhension, de l'injustice.
Si on vous dit devant toute la classe que vous n'avez rien compris.
Si c'est vrai, c'est pas tant un problème que ça. Non, de l'agacement, c'est pas une façon de parler avec un élève.
Moi, j'essaie de pas faire attention, parce que c'est pas grave de pas comprendre.
Et si c'est vers un autre élève, je pense que c'est choquant et on s'exprime avant ou après le cours en disant que c'est pas normal.
Auprès de qui?
Auprès du professeur ou si c'est pas possible, auprès d'un adjoint.
Si c'est sur un autre élève, pour le coup, peut-être même réagir immédiatement avec une certaine forme de rejet ou alors de ne pas accepter ça, ça a déjà un certain effet.
Est-ce que parfois vous ressentez de la culpabilité à l'école?
Quand, par exemple, j'ai un professeur de l'espoir un peu par rapport à ce qu'on est capable de faire et quand nos résultats sont pas ce qu'on attend et ce que le professeur attend peut-être.
Culpabilité de le décevoir, c'est ça.
On voit à quel point les émotions, aussi bien positives que négatives, font partie de votre quotidien à l'école. Est-ce que ça vous surprend qu'on soit capable de ressentir toutes ces émotions au sein de l'école?
Non, pas du tout, parce que l'école est surtout aussi notre école. Ça se présente un peu comme un lieu où on est là pour grandir, évoluer et vivre en commun. Et donc c'est normal que ces émotions qui nous traversent de façon quotidienne aussi en dehors de l'école soient présentes au sein de l'école qui est un lieu de formation.
Est-ce qu'on est toujours conscient des émotions qu'on ressent? Est-ce qu'on remarque toujours ses propres émotions? Est-ce qu'il y a des émotions qu'on ne perçoit pas mais qu'on ressent quand même?
Ça arrive qu'on peut être envahi par la colère, je sais pas, pour je ne sais quelle raison. Et puis, on voit pas que ça nous envahit, mais au final, on s'en rend compte et ça peut paraître...
La plupart du temps, la plupart des émotions passent inaperçues. Ou alors, on les ressent physiquement sans les ressentir véritablement de manière consciente.
Parfois, ça peut être aussi très impulsif, donc on ne se rend pas compte de ce que l'on ressent.
Et, ou alors, parfois, c'est tellement envahissant, c'est pas toujours quelque chose de conscient.
Parfois, ça peut aussi dépendre des personnalités parce qu'il y a des élèves qui ont tendance à être assez anesthésiés par rapport à leurs émotions à l'école, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de problème à faire face à leurs émotions à l'école aussi.
Parfois, on a une émotion qui vient d'une activité en dehors de l'école ou d'un cas familial, et quand on arrive à l'école, on ne va pas forcément faire le lien, mais ça nous affecte. Et même si ce n'est pas conscient que cet élément est en jeu, évidemment qu'il n'y a pas une frontière dans quoi que ce soit entre l'établissement et la vie en dehors de l'établissement. Et donc, par conséquent, il y a des continuités qui se font.
Oui, je pense que c'est naturel. Et si on faisait totalement abstraction de ce qui se passait en dehors de l'école, ça serait même étonnant.
Il n'y a aucune frontière entre les deux, ça revient au même. Si une émotion était là déjà présente au moment d'arriver, il ne va pas disparaître le moment où on franchit les portes.
Est-ce qu'on ne vous demande pas justement, pour revenir sur cette métaphore de l'anesthésie, est-ce qu'on ne vous demande pas justement de brider vos émotions dans une certaine mesure?
Dans l'intérêt de travailler, on a tendance à se déshumaniser et à ne plus ressentir aucune émotion, alors que c'est pourtant assez important, enfin pour moi, de laisser passer ces émotions.
Et justement, alors cette idée de la déshumanisation, le fait de devoir cacher son humanité dans la classe, est-ce qu'on ne se prive pas justement de certaines émotions qui pourraient être moteurs d'apprentissage?
Il me semble que ça, dans certains apprentissages, nos émotions rentrent en compte. Parce que par exemple, quand il s'agit d'étudier la géopolitique actuelle ou bien d'étudier un texte, évidemment que l'émotion joue une part importante. Après, dans le cas par exemple de l'étude d'un texte, on ne peut pas se fier entièrement aux émotions parce que c'est quelque chose de relatif et qui ne peut pas avoir pleinement, faire une produire une connaissance pleinement objective. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est de faire un équilibre entre ce qui constitue, comme l'a été dit, notre personnalité et qui donc est une part importante de nos émotions et ce qui relève de l'enseignement et donc qui est dans le cadre de l'éducation et qui demande aussi une part de mise de côté de ce qui nous accompagne habituellement.
J'ai l'impression qu'on sera toujours plus intrigué et intéressé par un cours s'il nous touche personnellement, s'il touche nos émotions. S'il exploite des passions que pourront avoir, ça sera toujours plus attrayant et plus intéressant à apprendre que si on est totalement morose par rapport à ce sujet, on n'exprime pas d'émotion.
Et je trouve qu'aussi on peut être un peu face à un paradoxe dans le fait que c'est en effet assez utile d'avoir des émotions, notamment par exemple en géopolitique, etc. Et aussi un paradoxe avec le fait qu'en classe, on a les professeurs pour le bien du cours ont tendance à nous demander de brider nos émotions, comme par exemple les fous rires qu'on peut avoir, même si c'est pour le bien du cours et que certains n'ont pas de rapport avec le cours, ça peut avoir tendance à brider nos autres émotions.
Les professeurs ne doivent pas accepter la plupart ou n'acceptent pas la plupart des attitudes et des émotions, rien que parce que sinon ils n'arriveraient pas à gérer 30 élèves. Il me semble que c'est aussi surtout un travail personnel de l'individu et de l'élève qui ne peut pas arriver dans un établissement où il y a une vie en communauté et considérer que c'est comme quand il est chez lui avec la pleine expression de ses sentiments. De un, parce qu'il y a d'autres personnes autour de lui, mais aussi parce que ce n'est pas le but de la vie en communauté et c'est justement un moment pour mettre aussi en pause ce qui peut avoir lieu en dehors de l'école, pour comprendre autrement, pour apprendre et donc aussi avoir l'opportunité d'avoir une brèche dans ce qui pourrait être habituellement son réel.
Est-ce que la peur, qui est inspirée parfois par les adultes, par la charge de devoirs que vous avez à faire, les échéances que vous devez assumer, est-ce que cette peur peut être productive ou est-ce que pour vous la peur n'est que justement un frein à l'apprentissage?
Par exemple, pour travailler pour un contrôle, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à travailler sous pression et ça va être plus facile de travailler peut-être un jour avant qu'une semaine avant parce qu'on ne se rend pas compte vraiment de l'importance du contrôle et ça peut être positif parce que donc on travaille de manière plus intensive.
La peur à la base, au niveau de l'évolution, n'existe pas pour rien. Elle existe pour se défendre de prédateurs. Donc si on ressent de la peur, ça veut dire qu'on est assez menacé ou en tout cas dans une situation où on a besoin d'être plus alerte. Donc si elle est là, ça signifie qu'on en aura peut-être la plupart du temps besoin. Sauf si dans ce cas-là, c'est plus une peur perfectionniste, et dans ce cas-là, on est paralysé, et là, pour le coup, ça devient contre-productif.
Et je pense que par exemple, au théâtre, avoir le trac avant d'aller jouer, évidemment, c'est positif, c'est ça qui permet d'avoir de l'énergie, mais en revanche, si on est tétanisé, on ne peut pas produire une performance qui est pertinente, qui est réussie, et ça nous bloque.
Moi je dis les émotions, ça dépend, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, évidemment c'est plus agréable de ressentir de la joie que de la peur, mais souvent parfois la joie ça peut être inadapté, par exemple si c'est un sujet d'histoire qui est assez tragique, et parfois la peur ça va juste nous paralyser. Mais parfois aussi la peur ça peut, souvent on apprend de cette peur pour s'améliorer.
On revient à cette question de l'excès, en fait. C'est-à-dire qu'une émotion en soi n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle peut être inadaptée ou excessive. Et dans ces cas-là, elle devient gênante.
Et puis la peur, c'est comme quelque chose qui fait qu'on est intimidé et qu'on ne s'en sent pas en pleine capacité. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est, d'un point de vue d'éducation, qui est pertinent, parce qu'au sein d'un établissement, on doit permettre à un élève de s'épanouir, d'apprendre, et d'être content d'être là, ou en tout cas de sentir qu'il exerce ses capacités intellectuelles, ses capacités également sociales. Quand on grandit, les échéances deviennent plus importantes, et le fait de savoir qu'on doit réussir, parce qu'on attend de nous certaines capacités et certains résultats, le fait de savoir qu'on doit reproduire ces résultats, c'est la peur de décevoir, et ça c'est une angoisse qui est importante, et même si à la fois elle est très motrice, parce que ça nous incite à travailler, à apprendre, d'autant plus si on aime la matière, à la fois, c'est un peu inquiétant parce qu'on voit la matière non plus comme source d'apprentissage, mais surtout comme une nécessité d'attester d'une capacité. Et donc, on travaille moins pour l'apprentissage que surtout pour le fait d'avoir une bonne note. Et ça, je pense que la peur, elle, là, n'a pas un bon effet.
Un autre exemple de peur invalidante que vous auriez ressenti ?
Je me souviens que parfois, pendant des cours, personne ne répondait, pas parce qu'il n'avait pas la réponse, mais justement parce qu'on avait peur de la réaction qu'il puisse avoir si la réponse était fausse.
Peut-être aussi la peur d'être perçu, parce qu'on a peur d'être déçu, mais on a aussi peur parfois d'être perçu comme quelqu'un de décevant. Et on finit par complètement abandonner aussi.
Vous évoquez beaucoup de craintes. Est-ce que les professeurs savent vous rassurer cependant ? Est-ce qu'ils mettent en place quand même des techniques qui vous paraissent favorables justement à réduire ces craintes que vous évoquez ?
Il y a beaucoup de professeurs qui essayent de nous rassurer en nous disant par exemple que ça va aller, qu'on est capable, qu'on peut réviser et que le contrôle ne sera pas si dur. Après, je pense que c'est difficile pour eux parfois de comprendre d'où vient notre angoisse parce que ce n'est pas toujours quelque chose de raisonné, dans le sens que c'est relatif à chacun. Et par ailleurs, je pense qu'ils ont parfois du mal à faire face à la variété de palette d'émotions des différents élèves qui peut beaucoup varier selon l'individu.
Souvent, les professeurs ils nous disent de relativiser que si on a une mauvaise note, qu'on peut rattraper, que ce n'est pas si grave et qu'il ne faut pas... se faire doux soucis pour des choses comme ça.
Et qu'est-ce que vous ressentez quand un professeur vous demande de relativiser
Souvent, je suis assez content parce que je me dis que le professeur il n'est pas déçu de nous, peut-être, c'est ce que je pense.
C'est vrai qu'il y a certaines émotions pour les professeurs, c'est évidemment presque des émotions indomptables parce que c'est lié à des choses qui ne sont pas de leur ressort souvent. Comme l'avenir ou d'autres types d'émotions. Mais je pense que c'est rien que le fait de se sentir écouté peut changer des choses, même si les émotions ne sont pas forcément réglées à la fin. Je pense que ça peut améliorer, en tout cas, la manière dont on approche l'émotion.
Il me semble que le système scolaire est quand même organisé un peu autour d'une dynamique verticale. Et donc, même si les professeurs font un effort pour avoir un lien avec les élèves, ce n'est pas exactement ça qui est favorisé ou mis en avant. Et puis par ailleurs, avoir 33 élèves dans une classe, ça fait tout de même qu'il est difficile pour les professeurs de comprendre parfois d'où provient une émotion d'un élève. Et comme on l'a dit, souvent ça provient de quelque chose d'extérieur ou juste au contenu du cours. Parce que s'il s'agissait juste de réviser le contrôle, les élèves ne seraient pas si angoissés. Et parfois, donc, ça mène aussi à leur conseil de relativiser. Et je pense qu'en fait, en réalité, c'est pas très... ça aide pas beaucoup l'idée de dire qu'il faut relativiser parce que non seulement, souvent pour eux, c'est pas très important, mais en fait, c'est assez important. Et ça, je pense que parfois, ils n'en ont pas toujours conscience.
Est-ce qu'il y a quand même des contextes qui sont plus favorables à générer une ambiance détendue pas trop non plus, vous voyez, on est toujours dans un équilibre, hein, parce qu'une ambiance trop détendue où vous prenez trop de plaisir, c'est potentiellement une classe pendant laquelle vous ne travaillez pas peut-être assez non plus.
Je me sens plus détendu quand c'est des classes plus unies, avec un peu l'esprit de camaraderie, parce que parfois, il y a des classes hyper compétitives où chacun essaye de passer devant un autre. Du coup, on est plus stressé dans ce genre de classe plutôt que dans des classes où tout le monde est uni, où tout le monde se respecte.
Il me semble qu'il y a certains professeurs qui arrivent à maintenir une forme de lien avec les élèves, où ils sont à la fois pas très distant et en même temps pas trop proche, et ça permet aussi d'offrir aux professeurs mais aussi beaucoup à l'élève et aux élèves en pluriel cette sorte de réflexion et de pas être tout le temps dans le partage des émotions. Et ça permet aussi de mieux faire face à la discipline, parce que si on est tout le temps à se soucier oh là là, est-ce que ça va aller, est-ce que vous êtes capable de faire le contrôle, ça fait aussi qu'on se dit qu'on est légitime à être angoissé, alors que si on nous laisse moins la possibilité de tout le temps avoir l'inquiétude permanente, ça permet aussi d'avoir chacun qui règle son fonctionnement, et chacun n'a pas les mêmes façons de fonctionner, et donc ça permet aussi de laisser un peu une intimité à l'élève.
Où le professeur accepte d'être humain, c'est-à-dire pas une machine qui met tout le temps, qui essaye d'aller très vite, qui essaye de tout le temps mettre des slides, le professeur humain qui prenne vraiment le temps de parler avec les élèves lors du cours, d'être dans le dialogue avec eux, qui est capable, qui ne prend pas tout personnellement, qui soit capable de prendre aussi en même temps du recul, mais qui ne soit pas non plus que dans l'échange, qui soit aussi en train d'expliquer, mais qui reste quand même très humain. C'est-à-dire que si le professeur n'est pas présent dans sa classe et qu'il fait un cours magistral, c'est sûr que ça va créer plus d'angoisse que si le professeur parle avec ses élèves et qu'il est véritablement présent.
Moi, je trouve que ça dépend aussi du professeur. Parce que certains peuvent avoir une meilleure relation avec un professeur Et moi, je trouve que c'est mieux quand il arrive à prendre en compte toute la classe. C'est compliqué, forcément, mais ne pas faire de favoritisme. Et alors, on se sent plus écouté, plus compris, pris en compte.
En effet, on parlait aussi d'esprit de camaraderie. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre rapport à autrui, parce que si c'est pour parler de nos émotions en classe, par exemple, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans une société où c'est assez difficile ou même mal vu presque de s'exprimer sur ses émotions avec des gens autour. Donc même si l'esprit, je pense, de camaraderie est très bon et que tout le monde s'entend bien en classe, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu inculqué en nous qui nous dit que c'est peut-être pas faisable de s'exprimer en classe devant d'autres personnes.
Je ne sais pas si on peut demander aux professeurs sans cesse d'être tout le temps à faire que le lien émotionnel, parce que déjà, ils ont un contenu de cours à produire et ils sont avant tout professeurs. Et ensuite, ça peut être une lourde charge mentale d'être sans cesse à vérifier que tout le monde va sans cesse bien, même si en revanche, il faut vérifier que tout le monde est inclus dans la classe. Parce que non seulement eux aussi, on vit à côté, et puis ils ne savent pas forcément comment réagir face à certaines situations.
Est-ce qu'il y a des matières ou des activités qui vous permettent d'exprimer vos émotions ?
J'adore jouer au tennis et genre souvent ça me permet de penser à autre chose.
Donc tu dirais que le cours qui te permettrait d'exprimer le plus tes émotions, ce serait l'EPS.
C'est plus moyen de me vider un peu de toutes les émotions négatives et de m'amuser.
Mais là, la question, c'est pas si de te débarrasser des émotions. La question, c'était est-ce qu'il y a des activités ou des matières qui justement permettent d'exprimer davantage ces émotions ? Pas forcément s'en débarrasser.
Moi, ce qui me parle tout de suite, c'est le théâtre. Parce que ça permet d'extérioriser tout ce qui s'est passé dans la semaine, la frustration, la joie ou la tristesse. C'est un moment où personne ne se juge, parce que c'est cet esprit de troupe qu'on essaie de développer chaque année, cette idée que chacun a ses émotions et il peut les libérer sans avoir peur du coup du regard des autres. Ça peut permettre aussi de passer de certaines émotions qu'on a pu ressentir.
Je trouve que le théâtre, ça permet d'accepter ses émotions, de les assumer devant plusieurs personnes, parce que peut-être que chez nous, on va avoir plus de facilité à exprimer nos émotions, mais ça permet aussi peut-être d'être compris en exprimant nos émotions.
Je vais revenir sur le théâtre, parce que le théâtre, vous exprimez vos émotions à travers un personnage. Ce ne sont pas vos propres émotions, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de jouer la colère, de jouer, etc., la tristesse, etc. Est-ce que finalement le fait de vivre des émotions par procuration, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ce que ressentent les personnages, c'est-à-dire que si vous incarnez un personnage qui est triste, vous allez jouer sa tristesse, est-ce que vous le ressentez aussi en littérature ?
Il me semble que quand on lit un bon livre en tout cas, on ressent l'émotion des personnages, avec évidemment plus ou moins de distance si elle nous parle ou pas. Mais cette identification émotionnelle fait qu'ensuite on étudie ou on ressent avec plus de précision les décisions qu'ils prennent. Et donc peut-être que par cette identification, de voir les choix qu'ils font, ça nous permet de voir comment notre émotion, en tout cas cette fausse émotion entre guillemets, va s'appliquer. Et donc je ne sais pas si directement ça va influer nos choix dans la vie quotidienne. Mais c'est une façon de pouvoir, pas de jouer au sens négativement, mais d'évoluer avec d'autres émotions et pouvoir ensuite les mettre d'un pas de côté, même si parfois quand on sort d'un livre, on ressent encore les émotions qui nous accompagnent un petit bout de temps ensuite parce que ça a été fort.
Il y a certaines fois des histoires que j'ai lues où il y avait des personnages qui vivaient des situations et en général, connaître la fin de ces situations, ça peut aussi nous permettre d'appréhender mieux celles-ci si on peut les vivre et donc que les émotions aient moins gros impact. À ce moment-là.
Il y a un côté très collectif quand même dans l'idée de se défouler dans un cours de sport. C'est quelque chose où l'émotion est vue comme quelque chose qu'on rejette et qu'on exprime dans un cadre particulier, mais qu'on partage. Okay, vous parliez de l'école comme un cadre social, justement, dans lequel j'ai l'impression que vous apprenez à ne pas être perçu comme ayant trop d'émotions et vous les régulez. Mais derrière, est-ce que vous faites attention aux émotions des autres, justement ? Parce que là, on est beaucoup sur la régulation de ses propres émotions. Et l'empathie, alors, les émotions des autres élèves, comment est-ce que vous les percevez ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elles vous passent outre de temps en temps ou que vous remarquez certaines choses ?
Moi, j'y apporte quand même une assez grande importance, en particulier à ceux de mes amis, parce que c'est vrai que, c'est pas forcément une émotion, enfin si, ça relève de l'émotion, mais quand ils vivent une situation personnelle un peu affligeante chez eux,
c'est toujours mieux de la connaître pour mieux appréhender la manière dont ils se comportent dans la vraie vie, à l'école en tout cas, et de comprendre pourquoi parfois ils expriment des émotions, ils surréagissent sans se dire que c'est à cause de nous, alors que c'est à cause de quelque chose qu'on a produit.
Je trouve que l'empathie, c'est une des émotions qui peut le plus nous submerger et qui, je pense que c'est une des peut-être les plus importantes à apprendre à gérer parce que personnellement, je suis quelqu'un qui ressent énormément d'empathie et parfois au quotidien, ça peut être assez lourd de ressentir le poids de la vie des autres sur les épaules, même si c'est important évidemment parce que c'est bien de pouvoir se mettre à la place des autres, etc., pour non seulement pouvoir les aider et même on peut avoir une capacité un peu réflexive par rapport à nous. Mais enfin, je sais qu'il y a des cours d'empathie. Je trouve que c'est une très bonne idée de mettre ça en place parce que je trouve que même si, en effet, même dans la société en général, on peut se dire qu'il y a un manque d'empathie parfois chez quelques personnes. Et donc, pour un peu pouvoir gérer ce contraste entre le manque d'empathie de certaines personnes et aussi le fait que certaines personnes n'arrivent pas à gérer la quantité d'empathie qu'ils ressentent.
Et que ce soit par rapport au stress, par rapport à l'empathie, justement, vous trouvez à l'école des réponses pour gérer ces émotions qui pourraient vous perturber ?
Je pense qu'en allant à l'école, on trouve des réponses en se formant une expérience personnelle de par nos relations avec les élèves, mais aussi avec les professeurs. Et que c'est en parlant avec les expériences des autres aussi qu'on peut apprendre à gérer les émotions.
Peut-être que pour pallier à cette quantité d'émotions qui nous entourent au quotidien, ce qui est utile à l'école, c'est surtout de comprendre qu'il y a d'autres personnes autour de nous, d'autres émotions, d'autres vies quotidiennes. On l'a dit, les émotions de l'extérieur également. Et donc, par-delà le fait de connaître en détail la vie et donc l'émotion de chacun, juste de se rendre compte qu'on a tous des choses qui nous arrivent au quotidien et qu'on ne peut pas sans cesse s'attendre à ce que ceux autour de nous ressentent exactement la même chose que nous. Je crois que c'est la théorie de l'esprit de quand on a 5-6 ans et qui dit que c'est à partir de 5-6 ans qu'on comprend que l'autrui est une altérité et qu'il n'est pas comme nous. Et je pense que ça, c'est vraiment un lieu où l'école, ça nous apprend. Mais c'est plus un apprentissage personnel qui se déduit de la vie en communauté que quelque chose que l'école nous apprend de façon concrète.
Mais où est-ce que vous trouvez votre technique, justement, de gestion du stress, de gestion de la colère, quand la colère monte, un petit peu, justement, de mise à distance de l'empathie? Où est-ce que vous puisez vos ressources? Vous le dites un petit peu dans les échanges, dans l'expérience, mais est-ce que vous avez d'autres endroits, je ne sais pas, sur Internet? Est-ce que vous suivez des comptes? Est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vos parents vous ont donné des techniques de respiration, je ne sais pas?
Moi, c'est plutôt par rapport aux autres élèves, justement, me dire que en fait, on est tous dans le même pétrin. Ça peut nous permettre de relâcher la pression.
Quand j'étais petite à l'école, je me souviens qu'il y avait un élève qui avait beaucoup de mal avec la colère. Et c'était vraiment, ça prenait une place démesurée dans sa vie, au quotidien, à l'école, mais aussi en dehors. Et on avait une professeure très sage qui lui avait dit que quand il ressentait tout d'un coup un excès de colère, il fallait qu'il sorte de la salle, qu'il aille respirer et qu'il revienne quand il se sentait plus prêt. Et je pense que ça, c'est aussi permis parce qu'on est plus jeune et qu'il n'y a pas les cours comme c'est au collège et au lycée. Et là, je pense que l'école avait été très pertinente pour aider parce que les parents ne savaient pas forcément comment réagir et comment faire parce que quand on a une relation personnelle avec la personne, c'est parfois plus difficile. Après, je pense que quand on est au lycée et au collège, il y a tant de choses qui s'accumulent dans la vie tous les jours que ce serait difficile de demander cet apprentissage de façon unilatérale, parce que, encore, comme on l'a dit, les émotions, elles varient pour tout le monde. Et avoir l'idée d'un cours, c'est quand même un peu considérer qu'il y a une façon de les interpréter. Et même si, en revanche, dire qu'il y a une place qui doit être faite aux émotions, ça permettrait de les légitimer et de dire qu'elles ont aussi une place et qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'émotions. En revanche, l'idée d'un cours au sens propre du terme, je ne sais pas comment les modalités se feraient pour que ce soit possible.
Je suis d'accord parce que, par exemple, en EMC, on fait des cours sur le harcèlement, de la sensibilisation au harcèlement, et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais peut-être que c'est amené de manière un peu compliquée. Je ne sais pas si ça a vraiment un effet positif. Bon, on apprend comment ça fonctionne, mais je pense que ce serait pareil pour la gestion des émotions. C'est compliqué de parler de ça devant une classe de 30 personnes sans avoir d'exemple précis. Ou ce serait trop,
trop théorique, peut-être. Et oui, voilà, je trouve que c'est compliqué de trouver une bonne solution pour expliquer ça et sensibiliser à ces sujets.
Je suis d'accord aussi que je pense que sans faire un cours, ce serait important de nous mettre plus à l'aise avec l'idée de parler de nos émotions tout simplement, mais pas que ce soit forcément devant une classe de 30, mais plutôt de légitimer l'idée que de parler de nos émotions, même que ce soit avec nos amis, il n'y a rien de gênant ou rien de problématique à parler de nos émotions. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être plus légitimé, que ce soit même avec nos amis.
Et derrière la notion de cours, quand même, ce que vous voyez, c'est quelque chose de très théorique, magistral, tout de suite, alors que ça pourrait prendre le format d'un atelier, plus de débats, d'échanges, dans lequel vous seriez amené à mobiliser vos expériences personnelles, et pourtant vous semblez sceptique.
On parlait des ateliers pour le harcèlement, et ce qui m'a semblé, c'est que souvent, ça tombe très vite dans l'idée de vouloir partager, et très vite, c'est la même chose qui sont redites. Et entre le théorique de « il faut laisser la place au sentiment » et l'application de « je prends en compte autrui et je sais comment gérer mon angoisse », c'est souvent difficile de faire la transition. Et je pense que c'est ça ce qui nous fait douter du terme « cours ». C'est que l'idée d'un cours, c'est quand même qu'il y a une classe et un professeur. Et donc, il y a quand même celui où, en tout cas, même si c'est l'élève qui apporte un contenu, c'est quand même l'idée de quelqu'un qui est émetteur et l'autre récepteur. Et alors que si c'était les concepts d'entraide et on parlait aussi des groupes d'amis, là, il y a plus l'idée que c'est un échange sans vrai ou faux ou idée absolue. Et c'est peut-être plus fonctionnel.
Donc, ça vous permet d'échanger dans un cadre plus horizontal puisque vous êtes entre pairs et que peut-être que le cadre de la hiérarchie trop verticale ne vous permet pas de vous sentir complètement libre de partager
exactement
vos sentiments.
Et puis, je pense que pendant un cours, ce serait compliqué parce que la gestion des émotions, ça dépend de chaque personne. Je ne sais pas si on peut le comparer au cours sur le harcèlement, mais c'est très personnel et une solution ne va pas marcher pour tout le monde. Donc, si on explique la même chose à 30 personnes différentes, ça ne va pas fonctionner pour tous. Il faudrait un suivi plus particulier.
Et même, on parle donc des cours de harcèlement et souvent dans ce genre de cours, même si c'est très triste, mais ce genre de cours où on essaye de montrer des choses du quotidien qui arrivent, qui arrivent à des gens extérieurs, ou même on ne sait pas si c'est arrivé à des gens dans la classe, l'émotion première, en tout cas, ou pas forcément harcèlement, mais dans ce genre de cours-là, l'émotion première, c'est souvent le rire, parce que comme on parle d'émotion, c'est souvent pour pallier la gêne, et donc le fait que y ait des gens qui rigolent, pas forcément de manière mal intentionnée, ça dégage cette idée de quelqu'un de mal intentionné.
Qu'est-ce qui, à votre avis, permettrait de faire en sorte que ce sentiment, la joie, soit plus peut-être encore présent?
Peut-être l'idée d'accentuer la communauté scolaire. Je sais que, par exemple, en terminale, avec les fêtes de fin d'année qu'on a envoyées aux fêtes de vacances qu'on a organisées de promotion, ça a été des moments très joyeux parce que même s'il y avait la vie qui continuait, des contrôles, de la proximité de Parcoursup et ce genre de choses-là, on avait l'idée qu'il y avait une sorte de regroupement de tout le monde et que ça ne mettait pas en cause notre individualité, mais qu'en revanche, il y avait aussi un groupe. Et ça, je pense que ça fait qu'on est content d'aller à l'école le matin et qu'on se sent reconnu chacun et que ce n'est pas juste le troupeau qui rentre dans les portes de l'école, que ça se ferme et qu'après, on ressort et on rentre chez soi.
On pourrait peut-être accentuer l'idée que le travail est plutôt réalisé pas pour les notes, même si c'est dans un contexte de futur et d'avenir, etc., et de Parcoursup, mais que le travail est de réaliser pas pour les notes, mais plutôt pour notre apprentissage personnel et notre culture. Par exemple, en philosophie, je pense que c'est un moment assez propice aux émotions, parce que c'est vrai qu'il y a une mise à distance où on peut penser à des cas très vagues, très généraux dans la vie, pour peut-être ensuite les associer à des expériences qui nous sont propres. Et donc, par exemple, dans ces cours-là, poser des questions très vagues, ça peut ça peut nous faire réfléchir sur nos émotions, mais sans forcément que ce soit noté et que ce soit un bac blanc de 4 heures.
Moi, je dirais qu'il faudrait faire redescendre un peu la pression en organisant peut-être des activités sur les thèmes qu'on est en train de travailler dans chaque matière, mais des activités pas notées, peut-être plus en petit groupe, pas en lien direct avec les émotions, mais de faire baisser le stress, même si c'est compliqué, puisque c'est le fonctionnement de l'école de mettre des notes.
Ben, merci beaucoup, chers élèves, pour ces témoignages.
Ces témoignages qui, nous l'espérons, ont suscité de l'intérêt, voire de l'empathie à votre égard chez nos auditeurs. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée et à bientôt pour une nouvelle émission.
À bientôt.